au quotidien avec Clotilde Seil.
Bonjour mes amis, comment allons-nous ce matin? Bien, je l'espère, en ce jeudi 9 juillet 2015. Je suis très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour vous faire la lecture de ce qui se dit, ce qui s'écrit dans les quotidiens québécois du jour. Alors, réduction de GES, une volonté contraire au geste au Québec. C'est un avis que l'on trouve dans Le Devoir. L'industrie du taxi doit innover, affirme Poetti. Censure autour du navire de Franklin. Libre-échange, l'industrie du lait. Les Québécois, on ne parlera pas que de lait, vous allez voir, on va parler de vin aussi, parce que les Québécois ont soif de vin d'ici, fait au Québec. Et puis aussi Montréal, vu par des touristes grincheux. Planète Québec, vu par Denise Bombardier, itinérance, attention aux chiffres réducteurs. Et on évoquera le sujet du doublage au Québec aussi, du moins dans les journaux, on en parle. Sinon, nous irons à l'international et notamment nous regarderons ce qui s'est dit au sommet sur le climat. Québec, la ville de Québec est une destination toujours prisée, apprend-on aussi, et des sujets variés, par exemple un sujet animalier où on apprend qu'on a vu des épaulards dans le Saint-Laurent assez récemment. En principe, on ne les voit plutôt qu'en Colombie-Britannique. Des étuis pour téléphone qui font jaser, autrement dit, on peut déjà dégainer son iPhone parce que ça ressemble fort à un revolver. La reine de Montréal de 76, Nadia Comaneci, est en ville. Fin de parcours pour Pospisil, bien sûr, ce sera en sport. À l'international, retour sur la bande de Gaza un an après la guerre de l'été dernier. Une opinion intéressante, la mort pour redonner la vie. Et nous irons bien sûr aussi voir ce qui se passe, ou du moins ce qui s'écrit dans le domaine culturel. Les Stones seront à Québec. On évoque dans Le Devoir le gay Hollywood au cinéma. La Chapelle Sixtine bientôt à Montréal et une balade accessible au musée Grévin. Et bien sûr, tout ça se terminera par le bulletin du handicap qui sera animé une fois encore par Christiane Campagna ce matin aux alentours de midi moins le quart. Alors, à la une du Devoir ce matin, pétrole, des nations autochtones exigent la protection du Saint-Laurent. Drogue, déchets, prostitution et incivilité, mais où sommes-nous? Nous sommes au parc du Mont-Royal, c'est là que ça se passe. L'îlot voyageur, l'édifice pour Revenu Québec, attendra apparemment 2 ans après l'annonce de la construction d'un complexe gouvernemental de 250 millions sur le site de l'ancienne gare d'autocar de Montréal. On ignore pourtant désormais quand et si le projet verra effectivement le jour. Il y a un gros dossier ce matin à la une du Devoir qui se poursuit en page A8, un gros dossier sur le gay Hollywood, parce que la 20e Century Fox prépare un film inspiré par la décision de la Cour suprême en faveur du mariage entre conjoints de même sexe. Alors, s'agira-t-il d'un jalon important dans la représentation de l'homosexualité dans le cinéma populaire, comme le fut par exemple Souvenir de Brokeback Mountain, ou bien s'agira-t-il d'un rendez-vous manqué? Je vous lis ça en deuxième heure de cette émission. Le gros titre aussi, la grosse photo, gros plan de M. Couillard, une volonté contraire au geste. Québec veut réduire ses émissions de GES de 80%, mais sonde son potentiel pétrolier. Philippe Couillard a indiqué hier, mercredi à Toronto, que le Québec adhère au protocole d'accord sur le leadership climatique mondial. Je vous lis dans quelques secondes ce qu'Alexandre Shields a à nous confier sur le sujet dans Le Devoir. Le Premier ministre Philippe Couillard a annoncé mercredi qu'il engageait le Québec sur la voie d'une réduction extrêmement ambitieuse de ses émissions de gaz à effet de serre au cours des prochaines années, un geste salué par les groupes environnementaux. Ceux-ci soulignent toutefois que les intentions mises de l'avant sont incompatibles avec les projets d'expansion de l'industrie des énergies fossiles auxquels le gouvernement se montre favorable. De passage à Toronto pour le sommet des Amériques sur le climat, le chef libéral a ainsi fait savoir que le Québec adhère au protocole d'accord sur le leadership climatique mondial. Cet instrument prévoit que les signataires s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, donc les fameux GES, de 80 à 95% d'ici 2050 par rapport à 1990. Mais un tel engagement doit en théorie permettre de contribuer à limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius d'ici 2100, ce qui est l'objectif officiel de la communauté internationale. À ce jour, 18 États et provinces de 9 pays et de 4 continents l'ont signé, dont l'Ontario et la Californie. Cela représente une population d'environ 130 millions de personnes. Pour M. Couillard, le Québec est un leader environnemental reconnu à l'échelle internationale et ce nouvel engagement est une autre preuve concrète que les États fédérés jouent un rôle majeur dans notre lutte collective contre les changements climatiques. Mais tout cela n'est pas si rose, nous semble nous dire Alexandre Shields, même si le chef libéral est allé même jusqu'à affirmer que nous observons présentement le début de la fin de l'ère des hydrocarbures. Dans les faits, le gouvernement Couillard a manifesté une ouverture certaine au projet de pipeline Énergie Est qui facilitera le transport et l'exportation de 400 millions de barils de pétrole des sables bitumineux chaque année. Il a certes annoncé une évaluation environnementale du projet, mais celle-ci exclut les 32 millions de tonnes de GES qui seront produits annuellement dans le cadre de l'exploitation de ce pétrole albertain. Qui plus est, ce pipeline est conçu pour être utilisé pendant plusieurs décennies. Québec, nous dit Alexandre Shields, est également favorable à l'exploration pétrolière et gazière sur le territoire québécois. Les études environnementales lancées par les libéraux au cours des derniers mois sur cette filière indiquent d'ailleurs clairement que le gouvernement a l'intention d'ouvrir toute grande la porte à l'exploitation, même le gaz de schiste est évoqué. En plus de financer des travaux d'exploration sur l'île d'Anticosti, le gouvernement a aussi annoncé récemment le dépôt d'un projet de loi qui marque une étape cruciale vers l'ouverture du golfe du Saint-Laurent au projet pétrolier. Et plus tôt cette année, il a aussi déposé un projet de loi pour s'assurer que la future cimenterie de Port-Daniel, qui sera un important émetteur de GES, échappe à une évaluation environnementale. Par ailleurs, selon le plus récent bilan disponible, les émissions du Québec ont augmenté entre 2012 et 2013. Bon, les taxis contre Uber, c'est le sujet de l'heure en cet été 2015, du moins en ce qui concerne la date du 9 juillet. Ça peut encore changer, mais pour l'instant, c'est vraiment là-dessus que tout le monde s'arrête. Et hier, l'industrie du taxi s'est réunie sous la houlette du ministre des Transports, Robert Poetti. C'est donc une consultation sur l'industrie du taxi qui s'est ouverte et qui a indiqué vouloir mettre fin au statu quo pour transformer la menace Uber en opportunité. Alors, des représentants de la clientèle et de l'industrie se sont réunis à porte close mercredi afin de trouver des solutions pour améliorer la qualité et l'encadrement du transport de passagers. On n'était pas là pour chialer, mais pour se regarder dans le miroir et se demander ce qu'on peut faire maintenant, appuie Dori Saliba, président du Conseil provincial de concertation et de développement de l'industrie du taxi. Décrivant les échanges comme constructifs, il a notamment insisté sur la nécessité de former davantage les chauffeurs de taxi, l'obligation d'accepter le paiement électronique, l'une des principales récriminations entendues, devrait être inscrite au règlement, a-t-il dit. La possibilité aussi de créer une association professionnelle à l'adhésion obligatoire a également été mise de l'avant par le regroupement des intermédiaires en taxi de Québec. Une proposition intéressante, selon M. Saliba, à condition de se réserver le droit de sévir contre les mauvais travailleurs. Même s'ils ne sont qu'une infime minorité, il faut pouvoir contrôler, voire expulser, les chauffeurs qui nuisent à l'image de toute l'industrie. L'industrie du taxi a rarement fait l'objet d'autant d'attention de la part du gouvernement et du grand public, écrit Sarah R. Champagne dans Le Devoir. Malgré la volonté de se concentrer sur des propositions, impossible de passer sous silence la concurrence du géant Uber qui exacerbe l'urgence de moderniser le secteur. Les chauffeurs UberX devraient recevoir des amendes plus salées, voir leur permis de conduire être suspendu ou leur compagnie d'assurance automobile avisée demande plusieurs joueurs. Le ministre Poetti affirme que 250 véhicules personnels utilisés par des individus qui ne sont pas des chauffeurs de taxi, à distinguer d'Uber Taxi, ont été saisis dans les derniers mois. D'ailleurs, sur le sujet, j'ai une caricature de Garnotte ce matin dans Le Devoir. Nous sommes dans le vieux Montréal. Il y a côte à côte une calèche et un chauffeur de taxi. Le chauffeur de taxi porte les mêmes œillères que le cheval de la calèche. Et dans la calèche, il y a le cocher qui répond aux touristes qui sont derrière lui. « Si je prends les cartes de crédit ?» Mais bien sûr, il faut vivre avec son temps. Au sujet du libre-échange, ça s'appelle le pot au lait. Les producteurs de lait, de volaille et d'œufs canadiens sont sur un pied de guerre, écrit Jean-Robert Sansfasson. Jamais dans l'histoire récente du commerce international, leur système de gestion de l'offre limitant la concurrence n'a été autant menacé. Depuis que le Congrès américain a adopté la semaine dernière la procédure accélérée dite de « fast track » permettant au président de ne lui présenter que le résultat final des négociations de traités commerciaux pour leur approbation, la conclusion rapide d'un accord de libre-échange entre 12 des pays de la zone du Pacifique apparaît de plus en plus probable. Et comme c'est souvent le cas en pareilles circonstances, les négociations en cours pour la signature de ce partenariat transpacifique, qui inclut les États-Unis, le Japon, l'Australie et le Canada, mais exclut la Chine, trouvent peu d'écho dans la population. Pour cause, puisqu'elles ont lieu à huis clos et que seuls les grands groupes d'affaires semblent consultés. Au Canada, le Premier ministre Harper rêve d'ajouter cette médaille à son tableau de chasse commercial avant les élections d'octobre. Mais pour cela, il lui faudra résoudre la quadrature du cercle, puisqu'il a promis de laisser intact le système de gestion de l'offre qui garde les producteurs de lait et de volaille à l'abri de la concurrence étrangère depuis une cinquantaine d'années. Au Canada, il faut savoir que l'industrie laitière compte pour 20% des revenus agricoles totaux, un chiffre qui grimpe à 43% au Québec selon les associations de producteurs. Ceux-ci plaident que le climat difficile et la priorité accordée à la ferme familiale exigent qu'on maintienne un système de contrôle centralisé des quantités et des prix du lait, du poulet et des œufs. Quant à la défense de la ferme familiale, il faut voir que la gestion de l'offre n'a pas empêché la disparition de dizaines de milliers de fermes laitières au pays, un phénomène de concentration qui se poursuit rondement et qui permet d'affirmer que cette industrie est mûre pour sortir de ses frontières. Jusqu'à ce jour, tous les politiciens québécois et canadiens se sont engagés à protéger la gestion de l'offre, mais les pressions sont de plus en plus fortes pour qu'on ouvre le marché. L'industrie agricole québécoise doit évoluer et il est temps qu'elle entreprenne sa transition du système des quotas et de la gestion centralisée vers une plus grande ouverture à la concurrence locale et étrangère. Écrit toujours Robert Sansfasson, cela exigera des fonds publics considérables en guise de dédommagement pour la perte de valeur des quotas de production, mais c'est le prix à payer pour une plus grande efficacité de cette industrie à long terme. Cela dit, avant de céder un pouce de terrain dans le cadre des négociations en cours avec les pays du Pacifique, il faut être certain que cette participation du Canada ne profitera pas seulement aux provinces de l'Ouest, comme c'est le cas pour le pétrole et le Canada. Commercer, c'est échanger, et pour l'instant, le Canada ne nous offre rien en échange de concessions dans le secteur laitier.
Si je l'aurai, oui je l'aurai, coûte que coûte, donnez-moi du vin que j'en goûte. Je veux le vin. malade, faites-moi mon lit, je veux me coucher. Oui, mais avant de me coucher, versez-moi du vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour, j'aime le vin, la nuit comme le jour.
J'aime le vin, j'aime l'amour, j'aime le vin, la nuit comme le jour.
Dans mon jardin, j'en sèmerai si long, si large, j'en ferai part à tous mes camarades. J'aime le vin, j'aime l'amour, j'aime le vin, la nuit comme le jour.
J'aime le vin, j'aime l'amour, j'aime le vin, la nuit comme le jour.
Oui, un bon choix musical que ces Batins-là. Merci Rémi pour nous amener à la une de la presse. Les Québécois ont soif de vin d'ici. Nouvelle stratégie de marketing de la SAQ. Beaucoup de produits de meilleure qualité. Les ventes de vin ont bondi de 80% l'an dernier. Je vous lis ça dans quelques minutes, juste après avoir fait le tour de la une de la presse. Un autre sujet que je vais aborder, c'est celui-ci. Dégainer son téléphone, un étui pour iPhone en forme de revolver crée des remous aux États-Unis. Les gens se mettent ça dans la poche. On a donc l'impression qu'ils ont un revolver dans la poche, alors qu'en fait, ce n'est que la crosse d'un pseudo-revolver, puisqu'au bout de ce revolver, c'est un iPhone. Voilà. Les Stones sur les plaines, le concert de l'été, je vous en parle durant le bloc culturel, en seconde heure de cette émission, les dessous de ce coup de maître du Festival d'été de Québec qui se met en branle aujourd'hui. Juste en dessous, une photo de Pospisil qui, sans surprise, tire sa révérence, mais il s'est très bien battu contre son rival Andy Murray en quart de finale à Wimbledon en tennis, donc. Et puis, la nouvelle du jour, d'ailleurs Rémi, j'aimerais peut-être que tu ailles vérifier, Rémi Hermoso, où est-ce qu'on en est. Vous savez sans doute qu'un tireur a fait 2 victimes à Marieville hier soir, c'était tard hier soir, et les policiers encore ce matin traquaient toujours le ou les suspects. Je ne sais pas où on en est à l'heure à laquelle je vous parle de cela. Il est 10h20, on est en train de regarder. La chasse à l'homme se poursuit. Alors, on va vous tenir au courant au fur et à mesure du développement de cette chasse à l'homme. Et puis, Exclusif, heures supplémentaires, il y a des employés d'Hydro qui doublent leur salaire quand ils font des heures sup, c'est quand même pas désagréable. Et hier, une panne a paralysé la bourse de New York, il y avait des marchés qui étaient sous haute tension. J'imagine que mes camarades économistes vous ont parlé de cela un petit peu plus tôt à l'émission Kiosque Magazine. Alors, je reviens tout de suite sur cette bonne nouvelle. Les Québécois ont soif de vin d'ici. C'est un dossier dont je vais vous lire de larges extraits. Alors, donc, les vins québécois ont la cote, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Je pense qu'on va manquer de vin au Québec dans les prochaines années, dit Charles-Henri de Coussergues, propriétaire du vignoble de l'Orpailleur. Lorsque le vigneron de Dunham a commencé à faire du vin dans les années 80, il n'y avait que 5 vignobles au Québec, dont le sien et le domaine Côte d'Ardoise. Il y a aujourd'hui 127 vignobles professionnels dans la province. L'année dernière, les ventes de blancs du Québec ont surpassé celles des blancs canadiens à la SAQ. Nous débutons une étape de gestion de croissance, dit Daniel Lalande du vignoble de la rivière du Chêne. En une année, les ventes du vignoble de Saint-Eustache sont passées de 3 000 à 6 000 caisses à la SAQ. Alors, plusieurs étapes ont permis au vin québécois d'élargir son public, dont l'arrivée de la certification Vin du Québec. Et cette certification assure que les raisins qui servent à faire l'alcool sont tous québécois. Il n'y a donc pas de mou ontarien dans un vin certifié. Et puis aussi, on découvre que les vins sont nettement meilleurs qu'il y a quelques années. Le goût s'est raffiné. D'ailleurs, on nous dit que c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs. Les bouteilles qui sont certifiées vin du Québec doivent passer un test de goût fait par un panel d'experts indépendants, dont 3 représentants de la SAQ. Un vin doit obtenir une note de plus de 70%. S'il échoue au test, il peut se reprendre une deuxième fois. Et après 2 échecs, il est écarté et ne recevra pas la certification. Ce qui fait le plus mal au vin, c'est son côté bucolique, lance Charles-Henri de Coussergues. Et là, il y a Stéphanie Bérubé qui signe ce papier, qui écrit « Pardon ». Mais oui, l'idée de faire du vin est quelque chose de très romantique, explique le vigneron. Et effectivement, des amateurs ont été tentés de se lancer dans la culture de la vigne, ainsi que quelques vedettes bien connues du grand public, ici comme ailleurs. Certains ont bien réussi, mais d'autres, beaucoup moins. Or, dans une industrie aussi jeune que celle du vin québécois, un mauvais vin laisse un arrière-goût qui reste longtemps dans la mémoire des consommateurs. Alors, quelques chiffres. Il y a 127 vignobles au Québec. 50, c'est le nombre de vignobles québécois présents à la SAQ sur les 127. Il y a 80 producteurs d'alcool québécois, c'est-à-dire qui font du vin, mais aussi du cidre, de l'hydromel, ou qui travaillent sur les petits fruits, l'érable, en produisant notamment des spiritueux. Et il y a donc 80 producteurs qui produisent tout cela, qui sont présents à la SAQ. Et 76%, c'est la hausse des ventes des vins québécois en argent en 2014-2015 à la SAQ. L'éditorial de la presse ce matin est signé Pascal Breton. Elle s'intéresse à ce phénomène de société qui fait que quand on a un bobo ou n'importe quoi, lorsqu'on veut une réponse, on s'adresse toujours d'abord à Internet. Et ça s'appelle « Crème solaire et contre-vérité ». Science et médias sociaux ne font pas toujours bon ménage. Le cocktail peut même devenir dévastateur quand les amalgames de faits inexacts sont relayés par des personnalités publiques. Alors récemment, le comédien Jim Carrey, qui a ravivé le débat sur la vaccination en alléguant que le thymocéral, un agent de conservation à base de mercure, causait l'autisme, ce qui n'a jamais été démontré. L'actrice québécoise Jacinthe René, productrice d'un webzine sur le mieux-être, s'est pour sa part retrouvée au cœur d'une controverse en publiant un texte sur Facebook semant des craintes sur les crèmes solaires et mettant en doute la nocivité du soleil. Elle a d'ailleurs reconnu qu'elle aurait dû citer une meilleure référence et le texte n'est maintenant plus disponible sur son compte. En matière de santé, on trouve le meilleur et le pire sur l'Internet. Des sites pseudo-scientifiques très bien vulgarisés pigent dans différentes études pour présenter des conclusions biaisées et fausses qui leurrent le public. Vaccins ou crème solaire, les résultats sont malheureusement souvent les mêmes. Les médecins sont confrontés à des patients hésitants ou inquiets dans leur cabinet. Questionner, douter et exiger des réponses satisfaisantes et légitimes, la promotion de bonnes habitudes de vie et d'un environnement sain est d'une valeur importante, mais il faut avoir l'heure juste. Ce qu'une étude en Suède a démontré, c'est que des femmes qui ne s'exposaient pas au soleil avaient une carence en vitamine D et présentaient un taux de mortalité plus élevé. Mais la Suède, un pays nordique, n'est pas l'Amérique du Nord. Il a été démontré qu'une exposition de quelques minutes par jour au soleil permet d'obtenir une dose suffisante de vitamines. Donc voilà, faisons attention à ce que nous allons lire sur les journaux qui pourraient changer drastiquement nos méthodes et notre façon de penser, et pas forcément pour un bon résultat. Le zoom sur la presse plus ce matin est fort intéressant. Montréal, vu par des touristes grincheux, vous savez, sur des sites de voyage comme TripAdvisor, par exemple, on peut retrouver ce genre de commentaires. Eh bien là, Nathalie Collard de la presse est allée voir ce qu'on disait sur Montréal, du moins de ce qu'on disait de plus négatif. Par exemple, au sujet du plateau Mont-Royal, quelqu'un des Basses-Laurentides a écrit « Nous avons eu de la difficulté à nous trouver un resto sympathique avec terrasse ouvert le midi. Les boutiques sont disparates comme suit. Deux pas belles, une fermée, deux bric-à-brac, une en rénovation, une pas trop pire et on recommence. La rue n'était pas tellement propre avec des passants qui avaient plus une allure de pauvreté qu'autre chose. » Grincheux aussi au Parc Olympique, quelqu'un qui est de New York et qui écrit « C'est nul, n'y allez pas, il n'y a rien à voir, c'est totalement désert, ça ressemble à une ville fantôme, c'est en ruine et ça a l'air sale et en plus c'est loin de tout, ne perdez pas votre journée, c'est glauque ». Au sujet du biodôme, malaise et perte de temps, ça vient de Rennes en France. Quelqu'un qui dit « peut-être avec des enfants et encore, mais sinon passez vraiment votre chemin, nous sommes des inconditionnels de la nature et il ressort de cette visite une impression de malaise, surtout lorsqu'à la fin vous tombez sur les pingouins dans de tout petits espaces sinistres, derrière des vitres épaisses, si au moins le cadre était associé à un message pédagogique, mais non, un surveillant vous interpelle en vous disant « le paresseux il est là-haut » et puis il s'en va. C'est un show vraiment très triste, dit cette personne de Rennes en France. Enfin, au sujet du vieux Montréal, tout ce quartier est plutôt miteux et fut une immense déception. Nous avons passé beaucoup de temps à chercher le vieux Montréal pour finalement constater que nous y étions, au beau milieu de boutiques touristiques quétaines. Ah, j'en ai un autre. À l'oratoire Saint-Joseph, à moins que vous croyiez à un moine qui guérit miraculeusement des handicapés qui grimpent une montagne pour la voir, sinon, oubliez ça, même la vue est médiocre, dit Destin de Floride.
Au quotidien, avec Clotilde Sey.
Et on poursuit cette tournée, cette revue de presse des quotidiens, aussi bien en région qu'à Montréal. En région, ce sera pour dans une dizaine de minutes à peu près. Pour l'instant, regardons ce qui s'écrit dans le journal de Montréal. À la une d'abord du journal. On parle de ces gommes à mâcher énergisantes qui inquiètent. À Gatineau, on évoque deux parachutistes gravement blessés. On en parle évidemment aussi dans le journal Le Droit. C'est à suivre un peu plus tard dans l'émission. Le gros titre, c'est au moins deux morts chez un ferrailleur. On parle de cette fusillade qui a eu lieu. C'est assez mystérieux. Ça s'est passé après l'heure du souper. Nous disent Maxime Délan et Frédéric Giguère. C'était sur le terrain d'un ferrailleur situé à proximité de l'intersection des chemins des 36 et branches du Rapide à Marieville, en Montérégie. La personne blessée gravement se nomme Éric Choquette. Il se serait rendu au commerce afin de montrer un tracteur à gazon qu'il voulait vendre, a raconté sa mère, qui a préféré taire son nom. Dès qu'il est rentré, bang, bang, les coups de feu ont retenti. Il est ressorti blessé gravement, apparemment à une main. Il est tout de suite parti pour l'hôpital. Ensuite, des policiers lourdement armés ont été dépêchés sur les lieux pour mener des recherches. Évidemment, le tout s'est fait avec énormément de précautions, mais les motifs entourant cette fusillade demeurent un mystère d'après les sources. L'événement pourrait être lié au monde des motards hors la loi. En fin de soirée, aucune arrestation n'avait encore été effectuée relativement à cette affaire et nous avons vérifié tantôt avec mon camarade Rémi Hermozon en régie. Apparemment, le ou les personnes qui ont fait ça courent toujours. Il y a quelques chroniques dans le journal de Montréal ce matin, notamment celle de Mme Bombardier qui rentre d'Europe. Et qui nous écrit ceci, ça s'intitule « Planète Québec ». De longues semaines passées en Europe me permettent une mise en distance salutaire face à ce qui agite le Québec, ce coin turbulent du Canada. Lire depuis l'étranger l'actualité telle qu'elle est présentée aux Québécois est une expérience éclairante. Peut-être faut-il être loin des yeux, mais non pas loin du cœur, pour comprendre que toute l'actualité internationale, qu'il s'agisse de nouvelles barbaries, islamistes, de la crise européenne actuelle au sujet de la Grèce ou des débats difficiles sur l'identité des peuples passent à travers la moulinette de la képécitude rabougrie, dit-elle. Prenons par exemple la Grèce et l'engouement quasi religieux qu'elle suscite dans l'opinion québécoise. Cela devient la confrontation entre David et Goliath, celle de pauvres citoyens contre les serpents technocratiques de Bruxelles, contre l'Allemagne. Les Québécois, dit-elle, ont toujours tendance à s'identifier aux victimes. La Grèce est aussi instrumentalisée aux yeux de nombre de Québécois pour leur propre cause. D'ailleurs, les dirigeants de Québec solidaire sont des frères du parti d'extrême-gauche Syriza, dirigé par le flamboyant et bluffeur Alexis Tsipras. Ce sont les mêmes Québécois qui n'ont de cesse, dit toujours Denise Bombardier, de dénoncer la corruption, la gabegie, l'immoralité citoyenne, toutes ces caractéristiques d'une Grèce qui refuse de rembourser ses dettes, non pas à des capitalistes sauvages, mais aux citoyens de tous les pays européens qui paient leurs impôts, se serrent la ceinture et consentent à réduire leur train de vie pour que l'Europe survive en tant que puissance économique face aux États-Unis, à la Chine et bientôt à l'Inde. Les Grecs, contrairement aux Irlandais, aux Slovaques, aux Espagnols, aux Lituaniens, refusent de payer une partie de leur dette souveraine et préfèrent, à travers leur héros national qu'ils appuient, s'inspirer de la tragédie grecque, notamment celle d'Esquille en particulier, où le mensonge était présent au cœur du drame. Depuis le début de mon mandat, en janvier de cette année, le Premier ministre grec ment comme il respire. C'est l'avis de Mme Bombardier. Il ment comme il respire face à ses partenaires européens. D'ailleurs, à ses prédécesseurs qui avaient adapté les documents nécessaires pour entrer dans l'euro. L'identification des Québécois avec M. Net et Mme Blancheville de la politique, toujours prompte à dénoncer la moindre apparence de malversation ou d'illégalité, est estomacante face aux agissements des Grecs. Ces derniers refusent de payer leurs impôts et rejettent sur les riches, c'est-à-dire sur tous les citoyens des pays de la zone euro, la responsabilité de leur propre dégradation et de leur propre refus de respecter des règles européennes. Loin du Québec, dit Mme Bombardier, l'on s'étonne aussi de l'importance démesurée de ce que l'on peut appeler l'affaire Snyder. Il était clair que la décision de PKP d'entrer en politique allait entraîner des conséquences inévitables sur la carrière de sa future femme, qui découvre ainsi que le terrain politique se situe sur des sables mouvants moins prévisibles, plus incontrôlables et plus dommageables pour elle que ces plateaux de télévision où, comme personne, elle ne laisse rien déraper. En d'autres termes, l'entrée dans l'arène politique de PKP annonçait le repli aussi douloureux qu'injuste, en un sens, de l'une des seules superstars productrices avec Fabienne Larouche que le Québec reconnaît, écrivait Denise Bombardier ce matin dans le Journal de Montréal. Dans le Journal de Montréal, Isabelle Gendreau est coordonnatrice des communications et responsable du dossier itinérance regroupement des auberges du cœur du Québec. Elle revient sur ce chiffre qui est sorti suite au sondage qui a été réalisé en mars au sujet du nombre réel, ou en tout cas supposément réel, d'itinérants à Montréal. Et c'est le chiffre d'un peu plus de 3 000 qui est sorti. Elle dit « Attention, il faut être prudent à l'égard du chiffre de 3016 personnes itinérantes à Montréal dénombrées dans la nuit du 24 mars 2015. Trois éléments nous interpellent dans ce chiffre qui correspond à une photo partielle d'une situation beaucoup plus large. D'abord, les jeunes semblent absents de ce portrait. Ensuite, on oppose le chiffre de 3000 aux 30 000 personnes qui avaient été dénombrées dans une autre étude des années 90. Et finalement, les chiffres d'une nuit ne sont pas les chiffres d'une année. » Les chiffres sont utiles et peuvent servir d'indicateurs, mais il faut être vigilant, dit Isabelle Gendreau, car ils sont trop souvent réducteurs et le dénombrement ne montre que la pointe de l'iceberg, la part visible dérangeante de l'itinérance. Bien qu'ils aient été dénombrés notamment dans les auberges du cœur, les faits saillants du rapport « Je compte Montréal 2015 » ne présentent aucune donnée sur la situation des jeunes. Par exemple, les jeunes sont souvent un bel exemple de l'itinérance cachée. Ils vivent dans des squats, ils dorment sur le divan d'un ami, ils cohabitent dans des logements insalubres avec 8 autres jeunes, ils louent une chambre de motel, ils dorment dans leur voiture, ils ne s'identifient pas comme itinérants. Pourtant, ils sont nombreux à ne pas avoir accès à un domicile sécuritaire et stable. Et quand ils arrivent dans une auberge du cœur, ils ont épuisé leur réseau social, leurs ressources de leur milieu. Ont-ils dormi dans la rue ? Parfois oui, parfois non. La majorité fera tout pour éviter la rue et c'est tant mieux, car c'est une expérience souffrante. Ils font pourtant bel et bien partie du phénomène de l'itinérance. Ils sont dans un processus de désaffiliation qui les rend vulnérables et l'accompagnement et le soutien qu'on pourra leur offrir leur permettront de trouver leur place dans la société et préviendra une itinérance chronique, épisodique ou ponctuelle. Finalement, il est clair que les 3000 personnes recensées dans la nuit du 24 mars ne montrent qu'une partie limitée de la réalité de l'itinérance. À titre d'exemple, une auberge du cœur de Montréal de 9 lits aura permis de dénombrer au plus 9 jeunes dans la nuit du 24 mars, mais dans une année, elle peut en héberger jusqu'à 80 et en accompagner autant en post-hébergement. Le dénombrement a donc pour effet de réduire le phénomène plutôt que d'en prendre la pleine mesure. Il faut bien comprendre la diversité et la complexité du phénomène de l'itinérance et utiliser des indicateurs conséquents dans le cadre d'un tel exercice qui vise à produire un état de situation réaliste de l'itinérance et ainsi saisir au mieux les enjeux qui en découlent. Or, un plan de lutte à l'itinérance doit pouvoir agir au-delà du visible, écrit cette femme, et se donner les moyens d'intervenir en amont et en aval du phénomène, car lutter contre l'itinérance, c'est aussi et surtout lutter contre la précarité et l'exclusion. Quelques mots sur le doublage au Québec. On voit en photo Catherine Brunet, Xavier Dolan et Louis-Philippe Dandenault lors du tournage de Hunger Games en 2012. Et oui, Xavier Dolan, il fait aussi beaucoup de doublage et ce depuis qu'il est tout jeune. Eh bien, non, la situation ne s'est pas améliorée pour une raison simple. Il existe maintenant un marché international dans le doublage, ce qui n'existait pas il y a 5 ou 10 ans. A expliqué Sophie Préjean, la directrice de l'UDA. On ne se bat pas avec les mêmes armes et les batailles ont aussi changé. En effet, le paysage audiovisuel est en train de muter grandement. Maintenant, l'Espagne, la Belgique, Israël, la France font du doublage. Avant, nous n'avions qu'un concurrent, la France. Maintenant, c'est facile de trouver des doubleurs qui parlent français à Barcelone et qui parlent français en Israël aussi. Et à moindre coût. Et comme c'est un marché qui n'existait pas avant et que les Américains vont sortir les films ailleurs en même temps, eh bien ils vont magasiner leur doublage. Cela nous a obligés, entre autres, à réduire nos tarifs pour devenir un peu plus concurrentiels sur le marché international, a dit Madame Préjean. Et parce que le Québec offre un doublage de qualité, cette baisse a, comme l'a souligné toujours Madame Préjean, revitalisé le milieu ici. Alors à peu près 80% des films qui sortent en salle chez nous sont doublés ici. Le marché l'oblige un peu. Un doublage fait en France ou en Belgique ne marche pas ici, a ajouté Sophie Préjean. Et les majors hollywoodiens l'ont bien compris, de même que les distributeurs, ils mettent désormais un point d'honneur à faire doubler leur production cinématographique dans la belle province. C'est le cas notamment des studios Disney, qui n'hésitent plus à faire appel à des artistes de chez nous et à faire une promotion spécifiquement québécoise dans le cas des films d'animation. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voyait, entre autres en photo, remarquez, ça n'a rien à voir avec Walt Disney, mais je sais que les trois personnes citées qu'on voit en photo font beaucoup de doublages de films d'animation. Catherine Brunet, Xavier Dolan et Louis-Philippe Dandenault, parce que vous savez que c'est un secteur qui est très, très, très réservé. Hein. La chasse, c'est difficile d'aller prendre une place si vous en voulez une, même si vous avez le moindrement un petit peu de talent. Alors 900, c'est le nombre d'artistes qui travaillent dans l'industrie du doublage au Québec. 30 à 40 heures, c'est le temps moyen pour le doublage d'un long métrage. Le salaire journalier, pour 8 heures de doublage, c'est $700 pour le doublage d'un rôle principal dans un film.
Qu'elle me dise que le cri a un moment.
Ce Philémon Simon qui nous amenait au cinéma sur les ondes de Canal M. Nous voici maintenant en région. Je vais commencer par le droit du renfort pour Wynne et Couillard. Le Québec, l'Ontario et la Californie unissent leurs voix. Les leaders de l'Ontario, du Québec et de la Californie ont appelé d'une seule voix hier à forcer la main de leurs gouvernements fédéraux respectifs pour accélérer le combat contre le réchauffement climatique. Les deux provinces canadiennes les plus populeuses comblent le vide laissé par Ottawa alors qu'elles tentent d'atténuer le problème des températures croissantes, a déclaré le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, au sommet des Amériques sur le climat à Toronto. La première ministre de l'Ontario, Kathleen Wynne, a dit souhaiter que le gouvernement fédéral entende le message que les provinces ne peuvent pas régler seules. Le problème, le gouvernement de la Caroline, Jerry Brown, lui a fait écho, disant que le premier ministre Stephen Harper se devait de monter à bord. La ministre fédérale de l'Environnement, Leona Aglukkaq, n'assiste pas au sommet. Elle est dans sa circonscription pour célébrer la fête du Nunavut, mais un porte-parole a souligné que le gouvernement conservateur est le premier de l'histoire canadienne à avoir obtenu une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre et qu'il a réussi à l'obtenir sans implanter de taxes sur le carbone ou des plans de coût du carbone. J'ai la caricature sous les yeux de Badeau dans Le Droit ce matin. Vous savez que en ce moment, on est aux prises un petit peu partout sur le territoire canadien, notamment en Colombie-Britannique et en Saskatchewan. On est aux prises avec des feux de forêt dramatiques. Et Badeau, en guise de caricature, nous présente un drapeau du Canada déjà mangé, je dirais, sur un tiers par les flammes. Et d'ailleurs, au milieu, la feuille d'érable, d'un côté, ressemble encore à une feuille d'érable, mais de l'autre côté, elle ressemble très, très franchement à des flammes qui s'activent. Dans le soleil, Côté est en vacances, alors on nous dit du coup Côté vous présente des esquisses. Et par exemple celle-ci que je trouve très très bonne. Au départ, on se demande ce que sont ces petites bibites et on s'aperçoit en s'approchant que ce sont des abeilles. Et il y a entre autres une abeille qui est couchée sur le dos avec les pattes en l'air et les autres qui sont à côté puis qui regardent puis qui s'inquiètent. Et là, il y a un officier de police aussi, abeille qu'on reconnaît parce qu'il a un chapeau d'officier de police sur la tête. Et puis il y a à côté une abeille avec une cigarette au bec que l'on devine être un inspecteur. Et puis, il y a quelqu'un qui dit « Oh là là, c'est encore un empoisonnement !» Et le flic qui dit « Oh là, inspecteur, c'est le 10 000e meurtre d'abeilles cette semaine sur le territoire. » Bon, voilà pour la caricature ce matin dans Le Soleil. Pour l'éditorial, c'est Brigitte Breton qui n'est pas en vacances et qui travaille fort en ce moment et qui écrit « Kakuna, attention fragile ». Kakuna est pouponnière de Beluga, les mots sont liés et leur utilisation nécessite une prudence élémentaire qui fait défaut au Premier ministre Jean d'Amour, lorsqu'il prône d'exploiter au maximum le potentiel de notre territoire maritime, y compris le port de Kakuna. Son gouvernement n'a-t-il rien appris de ses erreurs dans le dossier Trans-Canada, se demande Brigitte Breton, à moins que les termes développement durable ne veuillent rien dire pour lui. Les difficultés et les ratés de Québec et de son ministre de l'Environnement, David Hurtel, devraient pourtant être frais à l'esprit de tous les ministres du gouvernement libéral. C'est en juin dernier qu'ont été dévoilées les conclusions d'une enquête administrative sur le projet de terminal pétrolier de Trans-Canada à Kakuna. Une enquête interne lancée après que la Cour supérieure eut conclu que le feu vert accordé à la compagnie albertaine comportait une faille dans le processus décisionnel. Les conclusions semblaient pourtant claires il y a un mois au ministre Hurtel. Le ministre Hurtel disait le mois dernier notamment qu'il y aurait à l'avenir une meilleure compréhension de la situation et bien force est de constater que le message n'a pas été saisi par tous. Le ministre d'Amour, responsable de la stratégie maritime, semble avoir de grands projets de développement pour les ports de Kakuna, de Matane, de Rimouski et de Rivière-du-Loup. Or, Kakuna requiert une attention particulière que l'enthousiasme et l'ambition du ministre donnent l'impression de négliger ou d'escamoter. Bien sûr, le ministre d'Amour ne parle pas d'activité de forage. TransCanada a abandonné son projet à Kakuna, mais bien d'aménagement d'une zone industrielle au portuaire. Néanmoins, une activité accrue au port de Kakuna et une augmentation du trafic maritime sont-elles compatibles avec la présence des bélugas au large à une pouponnière de bélugas? Le ministre devrait faire preuve de plus de prudence avant de faire miroiter relance économique locale et prospérité. Tout cela se fera dans le respect des écosystèmes et du développement durable, a déclaré mardi au Soleil la porte-parole du ministre d'Amour. Des mots qui ne rassurent pas totalement, étant donné le passé. Sur quelle expertise scientifique et indépendante, se basera le gouvernement? Qui sera consulté et qui prendra les décisions? Ottawa a aussi son mot à dire. Le port de Kakuna lui appartient. Dans le dossier Le TransCanada Kakuna, Philippe Couillard avait relevé un problème de fluidité dans les échanges entre le ministère québécois de l'Environnement et Pêche et Océan Canada. Le gouvernement libéral cultive l'art de nuire à ses projets de développement économique en ne traitant pas de façon prudente et consciemment leurs impacts environnementaux. On l'a vu avec les gaz de schiste sous le gouvernement de Jean Charest, et l'histoire semble bien vouloir se répéter avec Philippe Couillard. On entretient une méfiance. En lançant la semaine dernière sa stratégie maritime, Québec a promis que le développement économique et les 30 000 emplois créés le seraient dans le respect de l'environnement et des communautés. Il doit être clair pour la population que le souci du gouvernement de protéger le fragile écosystème du Saint-Laurent est bien sincère. Alors à Sherbrooke, dans la tribune, deux titres pour vous ce matin. D'abord, la Welle qui reprend vie. Et ce n'est pas tous les soirs qu'un funambule se balade entre deux édifices au centre-ville de Sherbrooke, écrit Alexandre Faye. Ce n'est pas non plus tous les soirs que le cœur de la ville s'active, comme ce fut le cas hier, alors qu'avait simultanément lieu le coup d'envoi de Cowboys de Willie à Dolly à la place Nikitotek, et un spectacle gratuit du mythique groupe Zebda du côté sud de la rue Wellington, transformé en allée piétonnière dans le cadre du Cher Blues. En termes de diversité, on est bien servi avec le Cher Blues, les rythmes africains, la fête du lac des Nations, les cow-boys. Alors pourquoi aller à Montréal ou à Québec, demande Jonathan Bolduc. Il est vrai que l'ambiance festive qui régnait hier n'était pas sans rappeler celle des plus grandes villes de la province. D'ailleurs, la rue Wellington Sud se donnait les airs de la place des festivals de Montréal. Je ne connais pas les contraintes de circulation, mais il me semble que la Wellington Sud est faite pour être une rue piétonnière, avance Karen Page. On le voit ce soir, la rue est fermée et il y a une super ambiance, alors qu'à l'habitude, ce n'est pas le cas. L'ambiance est représentative de Sherbrooke ce soir, représentative aussi du potentiel de Sherbrooke, certes, mais aussi très animée pour un mercredi soir. C'est une bonne nouvelle, ça, pour Sherbrooke et pour l'Estrie. Politicien en vacances, c'est la caricature d'Hervé Philippe dans la tribune ce matin où l'on voit M. Couillard sur un terrain de golf. Il est littéralement penché, plié en deux sur son tee avec un tout petit bâton. En fait, le bâton est gros, mais c'est le manche qui a été coupé. Et M. Couillard qui dit ouais, « les coupures, c'est une solution pour nous sortir du trou, mais ça peut devenir un sérieux handicap ». Et puis un éditorial dans la tribune, celui de Denis Dufresne. Un service public de moins, et oui, comme de nombreuses autres villes canadiennes, Sherbrooke perdra la livraison du courrier à domicile à compter de 2016. Cela résulte d'une décision de Poste Canada prise sans consultation préalable et sans tenir compte de la réalité des quartiers urbains où on retrouve beaucoup d'aînés et de personnes à mobilité réduite. En vertu d'un plan de rationalisation adopté en 2014, Poste Canada installera des boîtes postales communautaires où il faudra dorénavant aller chercher son courrier. La société d'État, qui a réalisé des bénéfices de 194 millions en 2014 et a majoré le prix du timbre postal de 63 cents à 1 dollar, a démontré depuis le début une fermeture quasi totale devant les inquiétudes des citoyens. Tout comme pour les préoccupations des maires, on regarde l'impact de ces boîtes au plan de l'aménagement urbain. Il est vrai que le volume du courrier traditionnel, les lettres, les factures, les relevés, etc. diminue. Mais pourquoi Poste Canada fait-elle la sourde oreille à l'idée d'offrir le service postal 2 ou 3 jours par semaine au lieu de 5, se demande Denis Dufresne. Et comble de l'ineptie, la société d'État proposerait aux clients incapables de se déplacer de se procurer un billet du médecin pour qu'ils puissent continuer à recevoir le service à domicile. Malgré l'opposition virulente des administrations municipales de Montréal, Westmount, Longueuil et Laval qui ont entrepris des procédures légales et le moratoire demandé par l'Union des municipalités du Québec, Poste Canada semble avoir perdu toute notion d'imputabilité ou de quoi que ce soit ou de ce que doit être un service public. Je vous rappelle que vous écoutez Clotilde Say, vous êtes sur Canal M, c'est l'émission Au quotidien qui se prolonge jusqu'à midi.
Au quotidien, avec Clotilde Say.
C'est l'émission Au quotidien qui se poursuit, toujours Clotilde dans votre compagnie, au micro de Canal M. On va y aller avec des sujets un petit peu plus légers qui vont nous changer de la politique. Remarquez, léger. D'abord celui-ci. Ce sont des épaulards. Vous savez, les épaulards, ce sont ceux qu'on appelle aussi les killer whales. Eh bien, figurez-vous que la basse Côte-Nord a reçu de la visite rare vendredi, alors que 4 épaulards, les fameux killer whales, ont été pris en photo dans le golfe du Saint-Laurent. C'est un phénomène observé seulement une vingtaine de fois depuis les années 80. Les 3 adultes et le jeune épaulard ont été vus entre la Tabatière et Gros Mécatina. Le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, le GREM, confirme qu'il s'agit d'un phénomène qui sort de l'ordinaire. Ça n'a rien à voir avec les populations comme dans le Pacifique Nord. Si vous allez à Vancouver, par exemple, il y a toutes sortes de populations d'épaulards. Mais nous, c'est assez rare, a expliqué Marie-Sophie Giroux, la chef naturaliste au GREM. Alors ça, sur le coup, ça m'a fait sourire, mais finalement, ça m'a fait froid dans le dos. Appel à main armée, c'est le titre de ce papier sorti dans la presse plus ce matin. Ce n'est pas un pistolet, mais ça en a tout l'air. En fait, il s'agit d'un nouvel étui pour iPhone qui prend la forme d'un revolver. Évidemment, ça crée des remous aux États-Unis parce que ça ressemble à s'y méprendre à une arme de poing. La façon, comment je pourrais vous dire ça? Imaginez la crosse d'un revolver. Eh bien, au-dessus, le canon a été enlevé, mais on peut glisser son iPhone sur le canon. Donc, ça donne, lorsqu'on a le téléphone en main, en fait, on a la crosse en dessous et le téléphone est par-dessus, si bien que vous pouvez le ranger dans la poche. Et ce qui ressort de la poche, le iPhone est à l'intérieur, mais ce qui ressort de la poche, c'est la crosse de ce qui n'est pas un revolver, mais un étui. Vous me suivez? Alors évidemment, ça crée des remous. En conférence de presse mardi, le sénateur démocrate Chuck Schumer a publiquement appelé au boycottage de ce nouvel étui à iPhone. Et bien que l'objet ne soit pas officiellement illégal, sa ressemblance avec une arme à feu est suffisamment confondante pour que le politicien invite les sites d'achat en ligne à proscrire le produit. C'est mis en marché comme un truc cool et qui a du style, mais les armes ne sont pas un jeu, a déclaré M. Schumer. D'autres voix se sont élevées contre l'étui en question. La semaine dernière, la police du New Jersey a notamment affirmé que c'était une idée épouvantable. Donc l'objet, il se vend en noir ou en rose ou en blanc. On y glisse son iPhone comme s'il s'agissait d'une grosse douille plate et rectangulaire. Et une fois dans la poche, quand on ne voit que la crosse, eh bien l'illusion est troublante. Difficile de savoir où ces étuis sont fabriqués. Nous dit-on ici aussi dans le papier, dans la presse plus, d'après ce que rapporte le New York Times, la plupart des manufacturiers seraient asiatiques. Le site de vente en ligne AliExpress le détaille de 4,69 à 5,99, garantissant une livraison au Canada en 34 jours. Et puis, réplique aussi, ce n'est pas parce qu'elles ne tirent pas de balles que les répliques d'armes à feu ne font pas de victimes. Justement, c'est pour ça que c'est dangereux. On se souvient en novembre, Tamir Rice, un garçon de 12 ans de Cleveland, qui a été abattu par la police alors qu'il se baladait avec un pistolet à air comprimé. La loi américaine stipule que ces répliques d'armes doivent porter un embout orange pour les distinguer des vraies. Mais celle de Tamir Rice n'en avait pas. Pour la capitaine Camille Abel de la GRC, un policier qui fait face à un individu en possession de ce qui semble être une arme à feu réagira comme si l'arme était authentique jusqu'à preuve du contraire. Mais vous savez, il y a eu d'autres étuis douteux. Par exemple, il y en a une qui est en forme de grenade qui se dégoupille. Je vous garantis, avec une poignée sur le côté. Donc, ça ressemble très fortement à un engin explosif que lorsqu'on lâche la poignée, l'engin va exploser. Et c'est pour protéger tous ces joujoux électroniques que les créateurs d'étuis rivalisent d'imagination, nous dit-on ici. Et on nous présente en photo cet étui qui reproduit une arme imaginée pour la série de mangas japonais « L'attaque des titans ». C'est une très mauvaise idée, commentait l'an dernier le site Gizmodo qui recommandait à ses lecteurs américains de ne pas brandir cet étui dans le métro à cause de sa ressemblance avec un détonateur d'engin explosif. D'autres étuis sont simplement d'un goût douteux, par exemple main dans la main. On voit ici une photo. L'étui est en fait une main, si bien que lorsqu'on met sa main dedans, eh bien, c'est vraiment main dans la main. Le distributeur de cet étui propose de tenir compagnie à ceux qui se sentent seuls. Mais même le distributeur est d'accord, cet étui est débile, cet étui est sinistre, mais pour certaines personnes, cet étui est absolument formidable. Sinon, dans un registre carrément inoffensif, ce modèle Meshikani, du nom du plat japonais de riz et de crabe, qui se vendait une quarantaine de dollars, malheureusement, il est en rupture de stock. Alors, c'est une fausse pâte de crabe sur un faux lit d'herbe. Et quand vous avez ça dans votre main, en fait, c'est comme si vous teniez la fausse pâte de crabe. Et il y a même, s'inspirant de l'œuvre « Le téléphone aphrodisiaque » de Salvador Dali, il y a le combiné de l'appareil était remplacé par un homard. Eh bien, le designer australien Elliot Gorham a imaginé cet étui pour iPhone qui n'existe heureusement qu'en photo. Son principal avantage, il est facile à trouver au fond d'un sac à main. C'est effectivement un homard en plastique dans lequel on peut insérer son iPhone. Alors voilà pour les étuis douteux, mais enfin au moins ces derniers étaient superficiels. Ceux qui s'emboîtent dans la crosse d'un faux revolver, ça me semble vraiment très 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 douteux, effectivement. Et puis, des oméga-3, hein, depuis le temps qu'on nous rebat les oreilles avec ces oméga-3 en nous disant à quel point, et remarquez, c'est vrai, on a raison de le faire, ils sont importants pour notre santé. Eh bien, des oméga-3 produits par des plantes. Des chercheurs britanniques se sont félicités mardi soir d'être parvenus à faire pousser en plein champ des plantes génétiquement modifiées susceptibles de produire des oméga-3 que l'on ne trouve normalement que dans l'huile de poisson. Le Rotham State Research Center a mis au point en laboratoire et en serre des plantes camélines modifiées, pouvant produire deux acides gras bénéfiques pour la santé et normalement obtenus dans l'huile de poisson. Pour ce faire, une équipe scientifique a introduit des gènes d'algues marines, source naturelle d'acides gras, dans les graines de la plante. Après de premiers résultats concluants en laboratoire, la compagnie s'est félicitée d'être parvenue à répéter l'expérience dans des conditions environnementales réelles. Nos résultats font espérer que des plantes contenant ces acides gras et poussant en plein champ puissent contribuer à améliorer à l'avenir le développement durable de l'industrie de la pisciculture et de l'environnement marin, a déclaré la docteure Olga Sayanova qui travaille dans ce centre. Les résultats de ces recherches ont été publiés dans le Metabolic Engineering Communications. De prochains tests consisteront à comparer différentes souches de la plante avec les résultats de la plante caméline non modifiée génétiquement. L'aquaculture britannique pèse 3,2 milliards d'euros et représente un quart de l'ensemble de la production de poissons, mollusques et crustacés au sein de l'Union européenne.
Caché derrière mon sourire, derrière tout mon calme, il y a une boule de larmes et le poison de la rage. J'entends pas bien mon cœur dans le fracas des tremblements que cause mes peurs. Quand j'ouvre les bras, je me mets loin derrière, me mets
J'ai pas de seul sommeil. J'ai pas
Amélie, comme une reine qui nous amène à revoilà la reine de l'olympisme, qu'on voit d'ailleurs en photo, Nadia Comaneci, la reine des Jeux olympiques de Montréal en 76, qui a rencontré hier matin des gymnastes au parc olympique. La Roumaine d'origine participera aujourd'hui à l'inauguration de la maison olympique canadienne. Nadia Comaneci a visité les installations de gymnastique de l'Institut national du sport du Québec hier. Surnommée la reine des Jeux olympiques de Montréal, la gymnaste a marqué l'histoire en 1976 en obtenant la première note parfaite des JO. Elle était accompagnée d'Annie Pelletier, médaillée de bronze en plongeon aux Jeux d'Atlanta en 1996. Cette visite rare se tenait en prélude de la journée de l'excellence olympique qui se déroule aujourd'hui à Montréal. La Roumaine sera présente pour inaugurer la maison olympique canadienne au 500 boulevard René-Lévesque Ouest à Montréal. Le président du comité international olympique, Thomas Bach, sera aussi présent, ainsi que plus de 200 olympiens. Un spectacle musical clôturera la journée. L'événement est ouvert au public dès 18h. En tennis, c'est la fin d'un beau parcours pour l'ami Pospisil, Vacek Pospisil. Quel beau parcours! Il ne pouvait guère demander mieux hier à Wimbledon. Évidemment, il aurait pu demander mieux. Il aurait pu gagner contre Murray, mais gagner contre Murray, c'était pas mission impossible parce qu'il n'y a rien d'impossible, mais c'était vraiment un défi très, très lourd qu'il avait devant lui, ce Canadien, qui s'est incliné donc fort logiquement devant le troisième favori, 4-6, 5-7, 4-6. Mais il a eu les honneurs du cours central. Il a pu jouer devant le prince William et Kate Middleton, qui étaient au premier rang de la loge royale. Après avoir déjà disputé 7 matchs et 31 manches depuis le début du tournoi, Pospisil partait avec un sérieux handicap face à Murray. Raconte Michel Marois, le joueur de 25 ans a quand même offert une superbe opposition à son rival, même s'il a visiblement ralenti à mesure que le match avançait. En troisième manche, on l'a vu mettre le genou au sol. « J'aurais voulu être plus frais », a reconnu le Canadien en conférence de presse. « Ça m'a pris un peu de temps à entrer dans le match. C'était quand même ma première présence en quart de finale d'un grand chelem, sur le court central en plus, mais j'ai mieux joué par la suite. Il a réussi des coups extraordinaires chaque fois qu'il a réussi ses bris. Andy est vraiment chez lui sur ce court et je savais que ce ne serait pas facile. J'aime monter au filet, mais il est tellement fort du fond du court. » En tout cas, tout ça, ce sont des bonnes nouvelles du côté du tennis canadien, même si c'est vrai que Jenny Bouchard n'a pas fait grand-chose cette année. On ne sait jamais, elle peut se reprendre dans les années suivantes, mais il y en a tellement d'autres dont on parle. Et rappelez-vous, il y a encore 5 ou 6 ans, on ne parlait pas autant de tennisman ou tenniswoman canadien. Et là, tout d'un coup, on en a quasiment 4 ou 5, là, dont Pospisil, dont on n'attendait pas grand-chose et qui a fini par faire les quarts de finale à Wimbledon. Mais bravo, monsieur. Nous voici partis à l'international maintenant. Nous revenons sur la bande de Gaza un an après l'opération Bordure Protectrice. La faim, le chômage, les blessures, les maisons démolies, le désespoir, les racines profondes, les problèmes qui ont mené à la guerre de l'été dernier dans la bande de Gaza sont toujours présents, a prévenu l'ONU hier, un an jour pour jour après le début de l'opération Bordure Protectrice. Alors, voici quatre éléments préoccupants, écrit Jean-Thomas Léveillé dans la presse de ce matin. Les blessures qu'a entraînées le conflit meurtrier de l'été dernier ne sont toujours pas près d'être soignées et les enfants en souffrent particulièrement. La majorité de nos patients ayant besoin de soins chirurgicaux ou de kinésithérapie liés à des blessures de guerre ont moins de 18 ans, soulignait hier Médecins sans frontières dans un communiqué, rappelant par ailleurs que 70 établissements de santé ont été détruits dans les bombardements. Les 50 jours de guerre de l'été dernier constituent le conflit le plus long, le plus meurtrier et le plus destructeur des trois qui ont eu lieu en 6 ans dans la bande de Gaza, tuant 1500 civils, dont le tiers étaient des enfants. La destruction a aussi jeté 120 000 personnes à la rue, mais 315 jours après le cessez-le-feu, pas une seule maison détruite sur plus de 12 000 n'a été reconstruite, s'est indigné le commissaire général de l'Agence de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens au Proche-Orient. Le blocus imposé il y a maintenant 9 ans par Israël à la bande de Gaza empêche essentiellement la reconstruction de la bande de Gaza et les appels à sa levée ont été réitérés hier. Et puis, à la liste des problèmes déjà énumérés s'ajoutent les pénuries d'électricité, l'insécurité alimentaire qui touche 73% des 1,8 million d'habitants s'entassant dans l'enclave et le chômage parmi les plus élevés du monde. Croisons-nous les doigts pour que ces gens-là ne revivent pas l'enfer qu'ils ont vécu il y a un an. En Colombie, les FARC décrètent un cessez-le-feu. Le président Santos demande plus. La guérilla colombienne des FARC a annoncé mercredi un nouveau cessez-le-feu unilatéral d'un mois après des semaines de regains d'hostilité. Un geste salué par le gouvernement qui a toutefois demandé à la rébellion plus d'engagements concrets. Cette annonce survient au lendemain d'un appel à l'apaisement par les quatre pays médiateurs qui accompagnent le processus de paix en cours à La Havane. Une première trêve unilatérale avait été décrétée de décembre à mai. Nous cherchons à créer des conditions favorables pour avancer avec l'autre partie, le gouvernement colombien, dans la mise en place d'un cessez-le-feu bilatéral et définitif, a assuré Ivan Marquez, chef négociateur des FARC au pourparlers de paix qui se tiennent depuis novembre 2012 à La Havane. À compter du 20 juillet, ce cessez-le-feu prévoit, comme le précédent, une suspension des attaques des FARC, qui se réserve cependant le droit de répliquer en cas d'agression de l'armée. Le président colombien Juan Manuel Santos a salué ce geste, mais a estimé qu'il fallait plus, surtout des engagements concrets pour accélérer les négociations et mettre fin au plus vieux conflit armé d'Amérique latine, dans un message publié sur son compte Twitter. De son côté, le Bureau des Nations Unies à Bogota a estimé dans un communiqué qu'il s'agissait d'un geste très significatif en faveur de la désescalade des hostilités et un geste vraiment nécessaire au vu de la situation sur le terrain. À l'ONU, la Russie ne reconnaît pas le massacre de Srebrenica, écrit Carole Landry de New York, ça vient de l'AFP. La Russie a opposé mercredi son veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies reconnaissant le massacre de Srebrenica comme un génocide, qualifiant le texte d'agressif et indiquant qu'il menaçait de saper la réconciliation dans la région. Ce massacre est qualifié de génocide par la justice internationale, tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et cour pénale internationale, mais les responsables serbes de Bosnie refusent ce qualificatif. Le projet de résolution proposé par le Royaume-Uni est considéré par ce dernier comme une condition préalable à la réconciliation en Bosnie et visait à condamner le plus fermement possible le génocide. Quatre autres pays du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Angola, la Chine, le Nigeria et le Venezuela, se sont abstenus lors du vote sur le massacre de 8000 musulmans en juillet 1995. Et puis, en bref, en France, la justice française a infligé hier un nouveau revers à la présidente du Front National, Marine Le Pen, dans le combat qu'il oppose à son père, Jean-Marie, cofondateur du parti d'extrême droite, en suspendant le congrès par correspondance organisé pour le priver de son titre de président d'honneur. La semaine dernière, la justice avait déjà annulé la mise à l'écart de Jean-Marie Le Pen en tant qu'adhérent décrété par le parti à l'initiative de sa fille. Ces épisodes judiciaires s'inscrivent dans le conflit entre le père et la fille dont l'entreprise de dédiabolisation du parti irrite profondément le vieux tribun âgé de 87 ans. Le parti a violé ses règles internes en organisant ce congrès par correspondance et non sous forme physique, comme cela devrait être le cas pour une modification des statuts, notamment la suppression de la présidence d'honneur, estiment les juges. Aux États-Unis, la ville de Baltimore s'est séparée hier du chef de sa police en raison d'une hausse des homicides et à la suite des émeutes au printemps déclenchées par la mort d'un jeune noir après son arrestation par la police. Le chef de la police, Anthony Batts, a été licencié avec effet immédiat et remplacé temporairement par son adjoint. Et puis, en Italie, Berlusconi évite la prison. L'ancien chef du gouvernement italien, Silvio Berlusconi, a été reconnu coupable de corruption par un tribunal de Naples hier pour avoir soudoyé un sénateur au milieu des années 2000 afin de faire tomber son rival, Romano Prodi. Le mania des médias a été condamné à une peine de 3 ans de prison. Il n'aura toutefois pas à la purger, puisque les faits qui lui sont reprochés sont prescrits avant 2 possibles jugements en appel, une procédure qui pourrait prendre des années. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre pour vous? Non, Berlusconi, je viens d'en parler. Le Nigeria, le cerveau des attentats, a été arrêté, l'armée nigériane a affirmé mercredi avoir arrêté le présumé cerveau des attentats de Boko Haram à Jos, une ville du centre du pays, à Zaria dans le nord, qui en fait plus de 70 morts. Et puis également, un tortionnaire argentin a été arrêté au Brésil. Les autorités brésiliennes ont arrêté un ancien policier argentin recherché par Interpol pour enlèvement, torture et génocide sous la dictature en Argentine, a annoncé la police fédérale.
Au quotidien, avec Clotilde Seille.
Et j'ai maintenant quelques opinions, quelques idées aussi pour vous, notamment celle de Francine Laplante. Cette femme est entrepreneure à Laval et elle écrit ceci, c'est sorti dans la presse. Une question qui peut sembler bien banale, mais qui ne l'est pas du tout. Si vous aviez la chance de sauver la vie d'une personne, est-ce que vous le feriez ? La Charte des droits et libertés du Québec est claire à ce sujet. Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril. Chapitre 1, article 2. Dans l'éventualité où vraisemblablement vous avez répondu que vous sauveriez la vie d'une personne et que vous savez que la charte l'exige, pouvez-vous m'expliquer pourquoi tant de gens hésitent encore à signer leur carte de don d'organes ou hésitent encore à autoriser le prélèvement des organes d'un proche lorsque celui-ci n'a pas signé sa carte? Refuser de sauver une ou plusieurs personnes pour des raisons de conviction religieuse, morale ou simplement personnelle, est-ce un crime? Poser la question, c'est un peu y répondre non. Vous trouverez que je vais loin dans mes affirmations. J'ai été confrontée de très près à des situations qui m'ont fait cheminer dans une telle conclusion. Il y a quelques années, nous avons eu la douleur de vivre la fameuse scène du policier qui frappe à la porte à 23h30 et qui annonce à ma sœur et à son conjoint « Monsieur, madame, vous êtes bien les parents de Karl. Je suis désolée de devoir vous apprendre qu'il a eu un accident de voiture et qu'il n'a pas survécu. » Karl et trois autres personnes sont morts au cours de cette nuit que nous n'oublierons jamais, le choc d'une vie, les cris, les larmes, le mauvais rêve, l'incrédulité. Une fois à l'hôpital, alors que tout était si confus dans la tête de ses parents, une chose était pourtant claire. Est-ce qu'on peut au moins donner ses organes pour sauver des vies? Non, parce que Karl est mort sur le coup, il a été impossible de le maintenir en vie artificiellement, ce qui est un prérequis au don d'organes. Notre Karl est mort et pour ajouter à notre peine, il n'a même pas pu vivre un peu à travers d'autres gens, ce qui aurait donné un semblant de sens à sa mort prématurée. Quelques années plus tard, mon mentor subissait un malaise cardiaque sévère dans mon bureau. Ce jour-là, il est parti en ambulance, inconscient. Depuis son admission à l'hôpital, il était prioritaire sur la liste d'attente pour la transplantation d'un cœur. Mon ami a séjourné à 9 mois à l'hôpital. Il a été à un cheveu d'y passer quand le miracle est survenu. Aujourd'hui, il a repris sa pratique. Il est un tout nouveau grand-père. Il respire le bonheur. Il savoure chaque seconde de sa deuxième chance. Au mois d'octobre dernier, mon amie Nathalie, 40 ans, atteinte de fibrose kystique, n'a pas eu la même chance. Dans son cas, le coup de téléphone n'est jamais venu. 40 ans de souffrance auraient pu être transformés par une simple signature. Personne ne veut avoir à répondre à la fameuse question que l'on pose au moment où la peine et les émotions sont maîtres de nos pensées et empêchent de réfléchir et de décider. Pourtant, quiconque a le privilège de se servir d'une carte d'assurance maladie devrait se sentir obligé de signer l'autorisation du prélèvement des organes. Alors, faut-il carrément imposer le don d'organes? Selon moi, dit cette femme, c'est la seule solution. La mort peut redonner la vie. C'est en ces mots qu'elle conclut. Il est temps que la loi soit aussi limpide pour les morts que pour les vivants. Puis quelques réactions à la chronique d'Alain Dubuc publiée hier le 8 juillet qui s'intitulait « Le prisme déformant ». On parle là de la dette grecque. « On ne peut pas noter, dit Catherine Saint-Antoine, le besoin de plus de transfert et du même souffle indiqué que refuser l'austérité équivaut à revendiquer le droit de vivre au crochet des autres. Vous ne parlez pas de l'essentiel, la définition d'une union monétaire en construction qui va de pair avec non seulement une mise à niveau économique et financière, mais aussi avec une certaine conception de la solidarité encore à définir. La seule solution viable consiste à réduire la dette grecque, autant pour la Grèce que pour l'Europe. Ces incertitudes quant à la cohésion de la zone euro nuisent à l'ensemble de son économie. Mais vous avez raison, la situation n'a rien à voir avec celle du Québec. » Et puis, ne me faites pas pleurer, dit Anne-Marie à Lyon. Pourquoi l'Europe, surtout l'Allemagne et la France, a-t-elle accepté la Grèce dans l'Union et la zone euro? La Grèce est à la limite d'un tiers-monde européen, alors que l'Europe paye, dans tous les sens du terme, pour ses erreurs, et qu'on ne me fasse pas pleurer. Et puis, les ruines modernes. Tout le monde, écrit Alain Pelletier, tout le monde connaît les ruines de la Grèce antique. Dans le futur, nous allons connaître les ruines de la Grèce moderne. Mais les gens de ma génération auront bien sûr reconnu les Stones, Satisfaction, la grande visite au festival d'été de Québec, les Stones sur les plaines. Les Stones qui vont boucler leur tournée Zip Code devant une mer de monde sur les plaines d'Abraham. Mercredi prochain, cette prise spectaculaire du festival d'été de Québec qui se met en branle aujourd'hui s'annonce comme l'événement de l'été au Québec. Tiens, quelques chiffres pour mieux connaître ces Stones-là. Eh bien, il y a 50 ans, cette année explosait sur les palmarès une bombe nommée Satisfaction qu'on vient d'entendre. Tout l'art des Stones était concentré dans cet hymne rebelle, riff inoubliable que le groupe joue encore à la toute fin de son spectacle actuel. C'est également en 65 que Jagger, Richards, Watts, Wyman et Jones ont donné leur premier concert au Québec, le 23 avril à l'Aréna Maurice Richard et le 29 octobre au Forum. Après David Bowie en 2013, ce sera au tour des Stones de faire leur entrée au musée le 6 avril 2016, l'expo Exhibitionism qui rassemblera à la Saatchi Gallery de Londres quelques 500 objets et documents de toutes sortes, souvent rares sinon inédits, qui promet un voyage interactif dans l'univers des Stones. Il y a 44 ans, les Stones lançaient l'album Sticky Fingers, le premier disque sur leur propre label et dans lequel le guitariste Mick Taylor jouait sur toutes les pièces. Mike Taylor, j'aurais dû dire. En 98, les Stones n'ont joué qu'une fois à Québec, le 5 janvier 98. Et on peut parler d'une aventure rocambolesque, puisque le spectacle en plein air annoncé sur le terrain de l'Hippodrome de Québec le 10 octobre précédent a dû être reporté quand le groupe s'est découvert un autre engagement avec MTV. Puis les deux shows prévus les 14 et 15 janvier au Colisée ont été réduits à un seul, le 5 janvier, parce que le Madison Square Garden réclamait les Stones. Enfin, dans la nuit qui a suivi le spectacle du 5 janvier, le verglas s'est abattu sur le Québec et les Stones n'ont pu jouer au Stade olympique le dimanche suivant. Et puis, en plus de 50 ans de carrière, les Stones ont perdu des joueurs en cours de route. D'abord, Brian Jones, viré du groupe, est mort noyé peu après, en 69. Puis, Ian Stewart, le sixième Stone et cofondateur du groupe, mort en 85. Ainsi que Bill Wyman, qui a pris sa retraite après la tournée Steel Wheels de 89-90. Et cette fois, c'est sans le saxophoniste Bobby Keys, associé au groupe depuis 69, que les Stones ont repris la route. Keys, qui est né le même jour que l'indestructible Keith Richards, est mort des suites d'une cirrhose du foie en décembre dernier. Alors un autre sujet, la Chapelle Sixtine version Hollywood. Jérôme Delgado écrit dans Le Devoir, si Las Vegas possède sa tour Eiffel et ses canaux vénitiens, pourquoi Montréal n'aurait-elle pas sa Chapelle Sixtine? C'est la question que se sont posées des promoteurs de rêves de toutes sortes. Voilà pourquoi, à compter de vendredi, le Palais des Congrès peut se vanter d'accueillir, sauf erreur, la première Chapelle Sixtine en dehors du Vatican. L'événement tape à l'œil, qui est la Chapelle Sixtine de Michel-Ange. L'exposition est une idée de Martin Bialas, de l'entreprise Special Entertainment Events Inc., basée à Hollywood, travaille avec des sujets comme Star Trek. Après Montréal, il atterrira à Toronto, à Vancouver, puis éventuellement en Amérique latine. Deux facsimilés de l'expo circuleront aussi en Europe et en Asie. Le projet en soi est noble, nous dit Delgado, rendre accessible un décor de fresque habituellement haut perché et sans passer par l'interminable file d'attente au Vatican, avec le soutien de deux autres sociétés privées, dont la montréalaise Icon Vision Media ou Icon Vision Media. Monsieur Bialas a monté en 2 ans une exposition de photographie à l'échelle des peintures de Michel-Ange et chaque photo représente en taille réelle une œuvre de la voûte et s'appuie sur un audio guide descriptif. Donc, avis à vous, peut-être si vous n'avez pas la chance de voir de vos yeux cette œuvre-là. On ne déplace pas le Saint-Siège ni ses chefs-d'œuvre de la Renaissance avec des millions et des millions de dollars. Selon ce que le promoteur a accepté de révéler, on peut cependant faire croire à leur déplacement. Alors, la Chapelle Sixtine de Michel-Ange s'est présentée au Centre des Congrès du 10 juillet au 12 octobre. Il y a un petit prix d'entrée, mais ils ne disent pas lequel. C'est bête, hein, ils mettent prix d'entrée, puis il n'y a pas de chiffre après. Et puis, notre ami Kevin Breton est partenaire et collègue, est allé visiter le musée Grévin. Il nous dit que le royaume des selfies est complètement accessible. À vos téléphones mobiles, vaillants adeptes d'autoportraits numériques, j'ai découvert pour vous le paradis des selfies quelque part dans le majestueux Centre Eaton et semble-t-il que celui-ci est complètement accessible aux clients à mobilité réduite. Le royaume en question porte le nom de Musée Grévin. Il offre à ses visiteurs une expérience riche en cire et en flash de Kodak. Vous pourrez admirer sur ces deux étages pas moins de 120 personnalités qui ont été reproduites à la cire grandeur nature. Débutons par l'aspect plate, mais fort utile, dit Kevin, celui de l'accessibilité. L'exposition offre un parcours sans embûche pour toute personne se déplaçant à l'aide d'un fauteuil motorisé ou manuel. L'ascenseur qui relie les étages est certes étroit, il ne saurait accueillir plus qu'une aide à la mobilité motorisée à la fois, mais l'une des gentilles préposées du musée m'a confirmé que ce n'était jamais arrivé qu'un client ne puisse entrer par manque d'espace. Le même constat s'applique pour les deux montes-charges situées à des endroits stratégiques de l'exposition et qui sont rudimentaires, bruyants, mais fort efficaces. Même les ateliers interactifs, où il est possible de voir son visage être remodelé en cire numériquement, ont été ajustés de façon à être à la disposition de tous. Notons aussi que les trajets ont été conçus de manière universelle et que, à de rares occasions, les personnes à mobilité réduite doivent sortir des sentiers battus pour emprunter des parcours dédiés. Cette configuration permet une expérience optimale puisqu'elle évite aux personnes à mobilité réduite de rater, par exemple, des statues situées à l'ombre de leur trajet. Un seul bémol, le comptoir d'accueil est extrêmement haut, même pour un bipède qui n'excède pas 6 pieds 1. Alors le musée Grévin ouvre ses portes, nous dit et nous rappelle Kevin Breton tous les jours de la semaine et ferme entre 17 et 19 heures selon les journées. Le prix d'entrée pour une personne adulte est de 19,50 $ et il est à noter que le musée Grévin souscrit au programme de la vignette d'accompagnement touristique et de loisirs. Il est donc possible pour les détenteurs d'amener un ami gratuitement. Et oui, il finit par un seul mot et un point d'exclamation. Hourra ! Et on le comprend. Voilà, et puis en bref, la maison de production Aïcios de Fabienne Larouche et Michel Trudeau a récemment acheté les droits d'adaptation pour le cinéma du roman La Promesse de notre collègue, donc de la collègue de la presse Michel Ouimet. Michel Ouimet, vous vous en souvenez peut-être si vous écoutez l'émission Un livre découvert que j'avais reçu il y a seulement quelques semaines, peut-être un mois ou deux maximum, pendant la saison régulière de l'émission Un livre découvert, qui, je vous rappelle d'ailleurs, est proposée en reprise hein, toutes les semaines en ce moment, cet été, sur Canal M. Alors, la scénariste Alix Gagnon et la cinéaste Anaïs Barbeau-Lavalette sont pressenti pour porter l'œuvre au grand écran. Tous les acteurs de ce projet ont confirmé les informations de la presse obtenues hier. Voilà, sur cette bonne nouvelle pour le roman de Michel Ouimet, je vous abandonne pour la fin de semaine. Je vous retrouve lundi prochain à 10h. Demain matin à 10h, c'est ma camarade Christiane Campagna qui sera là pour animer au quotidien. Elle est d'ailleurs déjà là pour animer tout de suite le bulletin du handicap. Merci à tout le monde. Merci à Rémi Hermoso qui m'a accompagné. Bonne journée, bonne fin de semaine. Au revoir.